Europe Midi, Rémi Bostzaron.
Bonjour, bienvenue, il est midi et demi.
Si on peut montrer une voie pour faire en sorte que dans un territoire, on puisse déconfiner petit à petit et retrouver une vie à peu près normale, faisons-le, ce sera au bénéfice de tout le monde.
Après le confinement territorialisé, se dirige-t-on vers un déconfinement territorialisé ? Olivier Véran y est favorable. Certains se réjouissent déjà dans les départements les moins touchés par l'épidémie. C'est le souhait exprimé donc ce matin par le ministre de la Santé. Un déconfinement promesse d'une reprise économique dans le secteur du tourisme notamment. Mais que faire quand la main-d'œuvre manque ? C'est le casse-tête des professionnels notamment dans les Hauts-de-France. Se faire vacciner à l'AstraZeneca alors qu'on a moins de 55 ans, ce n'est pas prévu par les autorités. Et pourtant, c'est possible en France, témoignage d'un médecin et explication. Au programme également, un ancien cadre local du Modem devenu complotiste visé par un mandat d'arrêt international après l'enlèvement de la petite Mia. Après l'UEFA, c'est la FIFA qui s'attaque au projet de la Super League européenne de football. Les clubs qui y participeront en subiront les conséquences, prévient son patron. Et puis pour assister à un concert malgré l'épidémie, il y a la solution new-yorkaise. C'est simple, il suffit que chacun s'enferme dans une bulle. L'expérience a lieu ce soir. L'invité d'Europe Midi, Sophie Macariou, présidente du musée Guimet, le musée national des arts asiatiques à Paris.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Va-t-on assister en France à un déconfinement à plusieurs vitesses ? C'est le scénario qui se dessine, si l'on en croit Olivier Véran, le ministre de la Santé, interrogé ce matin par nos confrères du Télégramme. Il se dit favorable à un allègement des mesures de restriction, d'abord dans les territoires les moins touchés par l'épidémie. Jean-Gabriel Bourgeois, cette perspective inspire déjà certains départements.
Oui, et dans les zones où la situation épidémique est moins préoccupante, le sourire est un peu plus large ce matin, comme en Bretagne par exemple, où le taux d'incidence c'est presque deux fois moins élevé que la moyenne nationale. Hervé Guillard, le maire de Saint-Brieuc, espère au plus vite se mettre autour de la table pour travailler à la sortie de crise.
Et si on peut être un exemple au sens de, si on peut montrer une voie pour faire en sorte que dans un territoire, on puisse déconfiner petit à petit et retrouver une vie à peu près normale, faisons-le, ce sera au bénéfice de tout le monde.
Un autre élu breton me le confirme, commerçants et restaurateurs sont prêts, le recrutement des saisonniers a déjà commencé, mais attention à ne pas déconfiner trop tôt, martèle-t-on dans les régions encore très touchées par l'épidémie. Olivier Klein est le maire de Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis.
Il n'y aurait rien de pire que d'ouvrir trop vite les vannes et de se retrouver à nouveau dans une situation de forte tension. C'est aussi pour ça qu'il faut continuer à vacciner le plus vite possible pour que très vite on retrouve une vie normale.
Le ministère de la Santé me le précisait tout à l'heure, un déconfinement territorialisé fait partie des options, mais il est encore bien trop tôt pour décider. Tout dépendra des indicateurs, le taux d'incidence, l'évolution et la circulation du virus. Cette piste de réflexion n'est pas forcément celle qui tient la corde, tempère l'entourage d'Olivier Véran. Le calendrier n'est pour l'instant pas remis en question. L'objectif pour la levée des mesures de freinage reste fixé à la mi-mai.
Merci Jean-Gabriel Bourgeois. Et qui dit déconfinement dit perspective de reprise économique, par exemple pour les hôtels, restaurants. Mais encore faut-il avoir de la main-d'œuvre. Dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, les professionnels estiment que 3000 salariés ont démissionné depuis le début de la crise dans ce secteur. Et recruter s'annonce compliqué, notamment à Calais, où vous trouvez Lionel Gougelot.
Oui, c'est effectivement le casse-tête auquel Hervé Lefebvre, le patron du Café de Paris à Calais, doit faire face. Lui qui, comme bon nombre de ses confrères restaurateurs, a perdu du personnel durant cette crise. Un cuisinier et une directrice qui ont quitté le métier faute de perspective.
On ouvre moins, on accueille moins, on est fermé. Demain, on va réouvrir, mais comment ça va aller ? Donc, ils ont eux-mêmes une perte de visibilité. Et comment voulez-vous évoluer l'entreprise ? Et donc, leur carrière professionnelle est remise en jeu.
Résultat, rien qu'à Calais, 150 postes sont à pourvoir dans l'hôtellerie-restauration à la veille de la saison touristique estivale. À pourvoir, oui, mais à partir de quand ? C'est encore l'incertitude pour Hervé Lefebvre.
Il est difficile pour nous de faire des contrats de travail, de faire des offres d'emploi, tout en qu'on n'a pas de date d'ouverture et dans quel protocole on va réouvrir. Donc il va y avoir une formation qui va être faite en 3 mois de temps afin de pouvoir former des serveurs et des cuisiniers prêts à l'emploi pour préparer justement ses besoins à l'avenir.
Il y aura donc des emplois disponibles dans les restaurants de la région, mais le patron de l'Union des métiers de l'hôtellerie à Calais ne cache pas une autre inquiétude. Dans quel état de motivation seront les salariés qui seront restés inactifs depuis 7 ou 8 mois ? Là encore, il risque d'y avoir des défections à la réouverture des établissements.
Merci Lionel Gougelot. À Calais pour Europe 1. Sur le fond de la campagne de vaccination, ce sont désormais 12 750 000 personnes qui ont reçu au moins une première dose en France. Parmi elles, des personnes âgées de moins de 55 ans vaccinées à l'AstraZeneca, ce n'est pas prévu par les autorités et pourtant, Anne Le Gall, ce n'est pas illégal.
Absolument, car pour ne pas gaspiller de vaccins, la Haute Autorité de Santé a prévu que les médecins puissent vacciner en dehors des tranches d'âge prioritaires. Certains patients de moins de 55 ans peuvent donc se voir proposer une vaccination à l'AstraZeneca, une pratique qui reste exceptionnelle, explique le docteur Johan Sénac, médecin généraliste à Pantin, mais qu'il assume totalement.
Si j'ai un patient de 52 ans qui a un diabète, une hypertension, qui a déjà fait un infarctus, bah évidemment que si on n'arrive pas à lui trouver une place en centre de vaccination pour le vacciner au Pfizer ou Moderna, je préfère qu'il soit vacciné rapidement à l'AstraZeneca. Les risques qui sont liés à l'AstraZeneca, ce sont des risques qui sont extrêmement faibles, qui sont vraiment de l'ordre du risque d'être foudroyé. En revanche, le risque de faire un Covid grave, il est réel, donc je ne vois pas d'objection à les vacciner en toute connaissance de cause.
Pour ce professionnel, tout repose sur le lien de confiance médecin-patient. Mais le docteur Jacques Battistoni, président du syndicat MG France, lui, se méfie de cette pratique, même si elle est légale.
Si jamais ils ont un souci avec le vaccin, ça sera difficile pour eux d'argumenter. Ça présente un petit risque, donc il vaut mieux pas le faire.
De son côté, le ministère de la Santé confirme que la liberté de prescription existe et que c'est à chaque médecin d'apprécier la balance bénéfice-risque en fonction du profil du patient, sachant que cette balance n'est évidemment pas la même pour un jeune adulte et un patient qui a entre 50 et 55 ans.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1, et on attend cet après-midi le verdict de l'Agence européenne des médicaments à propos du vaccin Johnson & Johnson, un sérum dont l'utilisation a été suspendue aux États-Unis après l'apparition de cas graves de caillots sanguins. Nous faisons un détour rapide par le Tchad, puisqu'on l'apprend à l'instant selon l'armée tchadienne qui s'est exprimée à la télévision d'État. Le président tchadien Déby, qui vient d'être réélu, Idriss Déby, serait mort. L'annonce annoncée à l'instant à l'AFP, donc par l'armée tchadienne. Nous allons suivre évidemment l'évolution de la situation dans ce pays dans les éditions qui viennent. Depuis quelques minutes, un peu partout en France, des policiers se rassemblent devant les tribunaux à l'appel des organisations syndicales. Ils protestent contre ce qu'ils appellent le laxisme judiciaire après l'acquittement de 8 accusés dans le procès en appel des auteurs de l'attaque de Viry-Châtillon. Dans ce contexte, après Emmanuel Macron, hier, c'est Xavier Bertrand qui s'est positionné ce matin sur le thème de la sécurité. C'était sur notre antenne. Le candidat à la prochaine élection présidentielle estime que l'État doit frapper plus fort quand il est attaqué.
On s'attaque à un policier, un gendarme, un pompier ou un maire, il y aura une peine de prison automatique minimum d'un an, non aménageable. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre se disent qu'il y aura quoi ? Un rappel à la loi ?
Oui,
prenez le
précisons que les remises de peine automatiques ont été abolies quand on attaque un policier, un gendarme.
Mais je veux la première peine. On ne s'en prend pas à ceux qui nous protègent. Prenez notamment ce qui s'est passé à Viry-Châtillon. Si ce que je propose était en place, il n'y aurait pas pu y avoir d'acquittement.
Quoi ? Ça veut dire que vous, président, cela aurait changé ? Il n'y aurait pas eu ce verdict ?
À partir du moment où vous avez une peine de prison automatique minimum, il ne peut pas y avoir d'acquittement. Même s'il y a l'individualisation des peines, l'individualisation ne pourra se faire qu'au-delà de cette peine d'un an.
Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, candidat à la présidentielle 2022. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1.
Europe Midi, Rémi Bossaro.
Midi passé de 38 minutes exactement sur Europe 1. Dans un instant, un gourou ciblé par un mandat d'arrêt international dans l'affaire de l'enlèvement de la petite Mia, et la FIFA qui condamne à son tour le projet de Super League européenne de football. A tout de suite.
Europe Midi, Rémi Bossaron.
Il s'appelle Rémi Daillet, c'est un ancien cadre local du Modem, devenu gourou complotiste sur les réseaux sociaux, et cet homme est désormais visé par un mandat d'arrêt international dans le cadre de l'enlèvement de la petite Mia. Il s'était notamment prononcé sur Internet contre les placements d'enfants. Alors Marion Dubreuil, que sait-on exactement de son implication dans cet enlèvement ?
Eh bien, son nom est revenu à plusieurs reprises dans les interrogatoires des autres mis en cause. Rémi Daillet, 54 ans, apparaît comme l'animateur de cette mouvance anti-système qui soude les ravisseurs de Mia. Cet ancien cadre du Modem en Haute-Garonne est installé en Malaisie depuis plusieurs années, d'où la nécessité d'un mandat d'arrêt international. Il est impliqué dans le mouvement complotiste et défend notamment l'idée d'un coup d'État populaire. Au-delà de ses prises de position sur les réseaux sociaux, il est soupçonné d'avoir eu un rôle concret dans l'organisation de l'enlèvement de Mia. C'est lui qui aurait fourni les coordonnées de la femme qui a accueilli Lola Montemagi et sa fille Mia à Neuchâtel en Suisse. Il pourrait également être impliqué dans le financement du commando. 5 hommes ont déjà été mis en examen pour enlèvement en bande organisée. 4 d'entre eux ont été placés en détention provisoire. La mère de Mia et un Français sont toujours incarcérés en Suisse dans l'attente d'une procédure d'extradition qui pourrait prendre plus de 2 semaines.
Merci Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Après l'annonce fracassante de la création d'une Super Ligue européenne de football par les clubs les plus riches, l'Empire contre-attaque aujourd'hui. L'Empire du football, c'est la FIFA. On attendait la réponse de son président Giovanni Infantino. La voici.
Concretely, either you are in or you are out. You cannot be half in or half out. Think about it.
Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes tout seul, mais vous ne pouvez pas être entre les deux. Réfléchissez bien. Le patron de la FIFA qui s'est exprimé ce matin, Julien Froment, la FIFA qui soutient désormais l'UEFA dans ce dossier. Qu'est-ce que ça peut changer ?
Eh bien, c'est un soutien de poids, hein, très clairement. La FIFA qui gère le football des nations, mais qui garde bien sûr un œil sur le football des clubs, peut par exemple interdire de sélection nationale les joueurs qui disputeraient cette fameuse Super League, même si aucune annonce concrète n'a été faite. En tout cas, le patron de l'instance internationale, Gianni Infantino, s'est montré inflexible en ouverture du congrès de l'UEFA ce matin. Il désapprouve fortement ce projet et va même un peu plus loin.
Si certains choisissent de suivre leur propre chemin, ils devront vivre avec les conséquences de leur choix. C'est notre tâche de protéger bien sûr les compétitions de clubs, de protéger les équipes nationales, et ce, pour que le football puisse survivre à travers le monde.
Ces menaces, est-ce qu'elles peuvent vraiment faire peur à ces clubs super riches, Julien ?
Alors, pas vraiment pour le moment. Le président de cette future Super League, le patron du Real Madrid, Florentino Pérez, était l'invité d'une émission espagnole hier soir, et pour lui, il n'y aura pas de marche arrière, car cette Super League, c'est, je cite, le seul moyen de sauver le football, enfin surtout les clubs les plus riches. Il ne croit pas à des sanctions de l'UEFA ou de la FIFA, il ouvre même la porte à des négociations, mais vu les sorties au lance-flamme des deux instances ce matin, cette affaire pourrait surtout se régler sur le terrain des tribunaux, et là pour le moment, eh bien, il est impossible de savoir qui sortira vainqueur de cette bataille.
Merci Julien Froment, on continue à suivre avec vous, évidemment. Assister à un concert de musique, tout simplement. Ce n'est toujours pas autorisé en France. On ne peut plus se retrouver ensemble devant une scène. Et le risque, évidemment, c'est que chacun reste isolé dans sa bulle. Eh bien, justement, que chacun reste dans sa bulle, c'est la solution pour qu'il y ait un concert ce soir à New York. Angèle Châtelier, expliquez-nous.
Oui, alors c'est le concert de The Flaming Lips. Alors écoutez un extrait déjà d'un de leurs concerts, pardon, qu'ils ont donné en janvier dernier. C'est le groupe qui l'a partagé sur sa chaîne YouTube. Il faut vous imaginer là que sur l'image, il y a des confettis dans l'air, des lumières colorées et surtout des centaines de personnes, chacune dans une immense bulle en plastique, à 2 maximum, même les musiciens. Il n'y a pas mieux comme respect des gestes barrières. Avant le début du concert, chaque bulle est disposée dans un carré. Les spectateurs doivent porter le masque avant d'entrer dedans et ensuite, elles sont gonflées. Sachez qu'il y a une réserve d'oxygène d'1 heure. Et 10 minutes, hein, c'est pile le temps d'un concert. Un groupe Covido-compatible donc, mais qui faisait ça bien avant la pandémie. Le chanteur adorait se mettre lui-même dans une bulle et rouler sur le public qui est dans la fosse. De quoi profiter pleinement, vous le disiez, en live du dernier album de The Flaming Lips qui s'appelle American Head, sorti en septembre dernier.
Et on entend très bien, malgré la bulle, évidemment, oui. 1h10 d'oxygène. C'est ça, faut pas se tromper sur le rappel du concert non plus. Le temps.
Pas qu'il y ait de rappel. Hein.
C'est ça. Anissa Haddadi, on annonce une bataille homérique dans le ciel entre nuages et soleil.
Mais oui, c'est vrai que le ciel est très partagé cet après-midi. Alors c'est le long de la façade atlantique hein, jusqu'au Languedoc que le voile nuageux sera le plus épais cet après-midi, avec même un petit risque d'averse. Dans le sud-est, de la vallée du Rhône jusqu'à la Provence et même jusqu'en Corse, là le ciel est assez dégagé. Nous aurons cet après-midi une journée assez ensoleillée, mais attention, sur les Alpes et les reliefs corses, en altitude, donc quelques gouttes là aussi sont possibles. Et puis sur la moitié nord du pays, vous le disiez, c'est la bataille entre les éclaircies et les nuages. Les températures, elles sont douces cet après-midi. 12 degrés à Boulogne-sur-Mer, 13 à Cherbourg, 16 à Clermont-Ferrand et Lille, 17 degrés pour La Rochelle et Metz, 18 à Paris, Brest et Strasbourg et 20 degrés la maximale pour Nîmes. Alors si vous rêvez d'une journée avec un soleil totalement généreux, sans aucun nuage dans le ciel,
c'est possible.
C'est prévu jeudi et vendredi.
Formidable, merci Anissa Haddadi.
Europe Midi, Rémi Bossaro.
Dans un instant, je reçois Sophie Macario, présidente du musée Guimet, le musée national des arts asiatiques à Paris. Nous évoquerons notamment avec elle un islam rayonnant, celui qu'elle veut depuis toujours mettre en valeur. A tout de suite.